énergie renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
questions d'éthique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental pour vous divertir, mais surtout pour vous informer. On commence comme toujours par l'essentiel revue de l'actualité en environnement. Cette semaine au menu, on vous parle d'environnement et santé, entre autres de mutations génétiques chez les bébés humains. Bonjour, réveillez-vous, quelqu'un, faites quelque chose. On vous parle de changement climatique et de plein d'autres choses. Ensuite, il paraît que l'UQAM vire au vert. Enfin, certains, c'est ce que certains voudraient. Dans la mouvance du campus, des campus durables à travers le monde, des étudiants de l'UQAM lancent un projet d'aide pour le développement UQAM durable. Nicolas Roy, étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement, vient nous en parler. Le ministère de l'Environnement est mort. Vive le ministère du Développement durable et des parcs. Qu'en est-il? On fait la lumière là-dessus. On a recueilli les commentaires de plein d'intervenants du milieu. Restez à l'écoute. Vous allez pouvoir les entendre. Et on termine bien sûr par nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro. Bonjour durable. À toute l'équipe.
Ben bonjour Sofiane, durable.
Vous allez bien messieurs?
Très bien durable, merci.
Décidément, le développement durable c'est dans l'air du temps ces temps-ci. On a même vu, il y a eu un remaniement ministériel. On n'a pas seulement remanié les ministres en tête, on a aussi remanié le nom d'un des ministères très importants qui est le ministère de l'Environnement. Mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas encore, aujourd'hui, mardi pour ceux qui nous écoutent directement sur Choc et mercredi pour ceux qui nous écoutent sur CIBL, ben le ministère de l'Environnement du Québec n'est plus. Ben non. Il a été remplacé par, écoutez bien ça, le ministère du Développement durable et des parcs. Bon, je m'excuse, c'est l'émotion. Gros changement qui a été fait sans qu'il y ait aucune consultation sur la question. Gros changement qui, bon, il y en a qui disent « Ah, c'est juste des mots, ça change rien ». Ben, Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Oh, si Albert l'a dit.
Si Albert l'a dit, mais c'est si bien dit. Et quand c'est si bien dit, Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir les poils qui me dressent sur les bras. Pas que j'en ai tellement, mais c'est toujours un signe d'émotion. Je suis sûre que je ne suis pas la seule donc à réagir à ce changement d'appellation du ministère de l'Environnement. Vous, les gars, vos premières réactions quand vous avez vu ça?
Quelle belle coquille! Vide, potentiellement. En fait, c'est vraiment inquiétant. Patrick Bonin qui vous parle de retour cette semaine. Inquiétant de voir, justement, qu'on est en pleine consultation au Québec à savoir qu'est-ce qui va arriver avec le plan de développement durable proposé par le ministre de l'Environnement, qu'on va éventuellement appeler ministre du Développement durable. Eh bien, le gouvernement qui se disait « Nous sommes prêts », on ne sait pas à quoi il est prêt, mais on sait qu'il fait des changements extrêmement rapides au sein même du ministère de l'Environnement. On n'était probablement pas au courant de ce qui s'est passé. Ça a dû se tramer dans les hautes sphères décisionnelles du gouvernement. Et si vous appelez au ministère de l'Environnement, faites le test juste pour voir et me poser des questions par rapport à ce changement-là. Il semble-t-il qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant.
Mais on vous coupe peut-être tout de suite là-dessus. D'abord, le ministère de l'Environnement, c'est impossible d'avoir des informations en provenance du ministère de l'Environnement comme tel. Quand on téléphone au ministère de l'Environnement en tant que journaliste, peu importe qui on est, quel type de journaliste, on se fait référer à la direction des communications. On sait que les gens des communications connaissent l'environnement sur le bout de leurs doigts. Et donc, on est référé à la direction des communications qui, eux, suite aux questions qu'on leur a posées cette semaine à ce sujet-là, nous ont dit « Il n'y a aucun document officiel. On n'a absolument rien. Aucun document d'orientation. Pas de communiqué qui a été mis. Rien du tout. Par contre, le nom a changé sur les sites Internet. » Donc, il y a tout lieu de se demander, particulièrement compte tenu que la consultation publique pour le plan de développement durable n'est même pas encore terminée. Toi, Nicolas Milo, je suis sûre que ça te fait réagir également. Nicolas Mainville, excusez-moi. C'est l'émotion.
C'est correct. J'étais même confus moi-même. J'avais oublié mon propre nom.
Qui suis-je? Où vais-je? Comment?
Je suis assez sévère, tu vois, pour cette question de changement de nom. Je pense que les réactions dans les médias ont été relativement mitigées. On va avoir différents intervenants plus tard à l'émission dans la troisième partie. Ça risque d'être très intéressant. Mais j'avoue que je suis extrêmement sceptique sur l'orientation du gouvernement Charest. D'autant plus qu'on est en train de jouer avec un thème qui n'est même pas défini au sein de son propre gouvernement. On est en train, comme tu disais, Patrick, de consulter la population sur le plan de développement durable et on se permet de plugger ce terme un peu partout. Lorsqu'on entend M. Charest dire qu'il faut faire le développement durable de l'industrie de la motoneige...
Pour les générations futures.
Pour les générations futures. Écoutez, moi, je suis extrêmement sceptique. Donc, ça va être intéressant de faire cette analyse-là aujourd'hui, puisque, en plus, c'est tout à fait dans le cours des choses. Je veux dire, les consultations publiques continuent sur le plan de développement durable. On voit M. Mulcair à chaque jour faire des déclarations. Il en a fait à Rimouski hier. On va en parler pour la question de l'exploration gazière dans le Golfe et du projet Rabaska. Je pense qu'on va accumuler de plus en plus les bourdes. Et puis, heureusement, on va suivre ce dossier parce que, malheureusement, ils n'ont aucune crédibilité. Et peut-être que ça prend des gens non impliqués dans les ONG pour prendre position. Mm-hmm. Mais je crois que c'est monumentalement un désastre, ça se dit pas.
Peut-être juste rappeler...
Non, mais c'est beau.
Ouais, peut-être juste rappeler pourquoi, justement, ces gens-là dans les ONG ne sont pas... En fait, c'est une supposition qu'on fait, n'ont pas tant sorti que ça dans les journaux. Parce qu'il y a vraiment matière à s'inquiéter lorsqu'on parle d'un virage idéologique, tout simplement, ou d'une coquille vide, comme je disais. C'est parce qu'entre autres, au ministère de l'Environnement, on se souvient, l'an passé, eh bien, on a coupé beaucoup, soit de l'ordre de 16 millions dans un ministère qui avait environ 180 millions. Donc, c'est des grosses coupures et une grosse majorité de ces coupures-là ont été directement affectées aux différents ONG, dont les groupes nationaux en environnement. Donc, ces groupes-là se retrouvent avec très peu d'argent, de l'argent pas certain parce qu'ils se fient à cet argent-là du gouvernement pour faire rouler leurs choses et à travailler sur plusieurs autres dossiers, dont justement le fameux plan de développement durable. Et voilà pourquoi les ONG ont peut-être peur de sortir pour se faire couper encore plus par un ministre, qu'on ne sait plus comment l'appeler de toute façon, mais qui justement a la main dans sa poche et sélectionne l'argent.
Mais c'est certain que c'est important justement de soulever le travail des groupes environnementaux qui font entre autres un travail colossal au niveau du... je m'excuse, de la recherche et de l'analyse en termes de justement faire circuler de l'information, soulever des idées, etc. On va s'arrêter ici tout de suite parce que c'est un dossier qui est pesant, qui est lourd. Il y a beaucoup de tenants et aboutissants justement à ce simple changement de nom du ministère de l'Environnement pour le ministère du Développement durable. Peut-être simplement rappeler qu'en troisième partie, donc on en parlera plus amplement, mais rappeler que c'est un concept qui est né officiellement, bon, je dirais pas officiellement en 87, mais qui a été rendu populaire dans le rapport Brundtland qui a été publié en 1987, puis que ça, le développement durable, c'était donc un programme global balle de changement. C'est mieux, hein? Donc, vous écoutez une émission spécialement durable à Delirium Environnemental. On croit à ça, nous, la durabilité. La semaine passée, on était tout émus. On vous a parlé de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. L'émotion nous changeait la voix, comprenez-vous. On était très touchés par ça. Par contre, entre être touché et voir clair, il y a souvent un monde de différence. Je pourrais vous en parler plus amplement, mais c'est un tout autre sujet. Patrick Bonnet a été, qui ne participait pas malheureusement la semaine passée à l'émission. Cette semaine est aujourd'hui ici et il en a gros sur le cœur en termes de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Patrick.
Et pour cause, en fait, je ne participais pas à l'émission parce que j'étais à Lévis, tout près de Québec, justement parce qu'il y avait une consultation, plutôt une présentation publique d'un gros projet qui s'en vient au Québec, soit un terminal gazier qui va servir à accueillir du gaz naturel liquéfié, donc on rend liquide, qui vient d'Europe. Et ça, je vous mets tout ça dans le contexte parce qu'on a parlé beaucoup de Kyoto, du transport, mais on a mis complètement de côté ce qui se passe au Québec, qui est un virage énormément dangereux. On appelle ça le virage au gaz. Vous savez, non, sérieusement, c'est très, très grave, parce qu'au Québec, on produit beaucoup d'électricité à partir de l'hydroélectrique, et on ne se fie pas beaucoup sur le gaz naturel. Eh bien là, on a eu plusieurs annonces lors de la dernière année, au point tel que la coalition Québec vers Kyoto, cette coalition qui avait organisé la manifestation à Montréal contre le Suroît l'an passé, c'était 1500, la plus grosse manifestation environnementale de l'histoire du Québec. La coalition a fait un communiqué de presse, a fait une conférence de presse et est sortie disant « Nous, on veut un moratoire sur le thermique au Québec. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire sur le thermique au Québec? Évidemment, c'est sur le gaz naturel. Et pourquoi on veut un moratoire? Parce que justement, on est en train de prendre des grosses décisions d'orientation stratégique au Québec. On parle d'une centrale thermique au gaz naturel pour la première fois à Bécancour qui s'en vient, avec énormément d'émissions de gaz à effet de serre. On parle de deux terminaux gaziers, donc des terminaux, un à Gros-Cacouna et un à Lévis. Et ça, ça va évidemment amener davantage de gaz au Québec. Et on parle en plus de ça d'un autre offre, un appel d'offres de 350 MW pour d'autres centrales thermiques au gaz naturel. Et là, la coalition a dit, non, écoutez, avant de se lancer là-dedans, ça n'a aucun sens. On est en consultation parlementaire au Québec pour savoir, une consultation parlementaire sur l'avenir énergétique du Québec. Où s'en va le gouvernement en laissant aller des projets comme ça dans l'air? On a des décisions à prendre en tant que société. Qu'est-ce qu'on veut comme avenir énergétique? Et là, il y a plein de choses qui sont lancées comme ça. Donc, on a dit à la coalition, on met un frein là-dessus. On veut un stop.
Une position essentielle, d'autant plus que lorsqu'on parle du concept de développement durable, comme on le faisait juste avant la petite pause musicale, et qu'on dit qu'on manipule ce terme de façon outrageuse à toutes les sauces, écoutez la position de M. Mulcair, justement, sur les projets de port méthanier. On est en train de discuter ces projets-là, et puis M. Mulcair s'exprime ainsi. Je ne suis pas saisi actuellement d'aucun projet pour le port méthanier, donc il n'a pas été mis au courant de ces projets-là, mais l'un ou l'autre des projets, donc Gros-Cacouna ou Lévis-Beaumont, sera regardé avec un œil extrêmement vigilant dans son ensemble en termes de développement durable, sans oublier que dans cette expression, il y a le mot développement. Imaginez quand c'est votre ministre du développement durable qui s'assure de prononcer le terme développement pour s'assurer qu'évidemment, il n'y aura pas ralentissement économique. C'est mon opinion. Je trouve ça inquiétant. Alors, continue Patrick, c'était une parenthèse.
Et évidemment, on voit justement l'orientation potentielle du ministre dit de l'Environnement. Eh bien, il y a d'autres choses où le chef de cabinet de M. Charest s'appelle Stéphane Bertrand. Et ce monsieur, eh bien, écoutez, il occupait le poste de vice-président communication, affaires publiques et gouvernementales à Gaz Métro.
Ah, un monsieur neutre, quoi.
Un monsieur neutre, quoi. Et on s'entend que ce n'est pas le seul qui a un intérêt dans le gaz. On s'attendait à ce que M. Bernard Landry du PQ se dise d'une façon logique, écoutez, si on veut une indépendance au niveau du Québec, une souveraineté, quelque chose, on ne veut pas avoir une dépendance envers du gaz naturel qui vient d'aller au bout du monde, soit de Norvège, d'Algérie, plusieurs endroits, ou de Russie. Mais en fait, c'est pour pallier justement ces terminaux gaziers-là qu'on veut à Lévis ou à Gros-Cacouna. C'est pour pallier, parce qu'on a juste une façon de s'approvisionner en gaz au Québec, ça vient de l'Alberta.
Et là, c'est pour pallier la dépendance avec
l'Alberta. Oui, parce que ce qu'ils disent, c'est que présentement, le prix, et c'est vrai, le prix du gaz naturel est en montée, parce que la demande aux États-Unis est énorme. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on veut une nouvelle source d'approvisionnement au Québec pour justement pallier à cette montée-là.
Mais oui, ça va les protéger contre la flambée des prix.
Mais le but, ce n'est pas justement d'augmenter l'offre, mais bien de diminuer notre demande en termes de gaz naturel. Et ce pourquoi on arrive avec ça au Québec, c'est parce qu'aux États-Unis, ils n'en veulent pas. Il y a 10 projets qui ont été rejetés aux États-Unis de terminaux gaziers, parce qu'entre autres, c'est dangereux, puis entre autres, les communautés locales n'en veulent pas. Donc au Québec, on essaie de passer sans douce un projet de 700 millions. Gaz Métro, en fait, c'est un consortium Gaz Métro, Gaz de France et Enbridge, des gros, gros joueurs qui arrivent avec la grosse argent, de la grosse propagande.
Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on sait, entre autres, que le Suroît, ça va faire école, ce cas-là, parce qu'il y a eu une mobilisation sociale incroyable, il y a une mobilisation autour des enjeux, entre autres des émissions de CO2 qui étaient dues à cette centrale-là. Ce qu'on sait, c'est que Bécancour va en être l'équivalent. Puis, ce qui est surprenant, c'est qu'on est capable de se mobiliser quand il y a des groupes qui en font la promotion. Puis là, malheureusement, peut-être qu'à cause de la mise en vigueur de Kyoto, les actions d'Acte B sont peut-être passées plus sous silence, comme dans une espèce d'effervescence. Ça va bien, on s'en occupe, quand dans le fond, non, pas du tout.
Juste rappeler qu'Acte B, c'est justement le mouvement citoyen à Bécancour qui ont dit non, on ne veut pas de cette centrale-là, qui est un petit peu une petite centrale jumelle, si vous voulez. Pas une petite centrale, c'est une grosse centrale, c'est quand même 500 MW. Là, on parle d'une augmentation de près de 2% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, juste cette centrale-là va augmenter de 33% les efforts de Québec en termes d'atteinte d'objectifs de Kyoto. Donc, au lieu de réduire de 6%, là, juste une centrale, on va avoir 2%. Cette centrale est en construction. Elle est presque terminée, plus ou moins, à Bécancour.
Ah, ben c'est prêt. On peut s'y suppler.
Exactement. Et personne ne fait rien. Juste vous rappeler peut-être que le gaz naturel, lorsqu'on parle de développement durable, eh bien, présentement, les réserves prouvées de gaz naturel sont de 70 ans. Donc, 70 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus une goutte ou plutôt un grain d'air, comment dire, une molécule de gaz dans le monde dans 70 ans. Donc,
Il s'agirait donc d'un projet de développement durable à court terme.
Durable à très court terme, parce que si dans 70 ans, on n'a plus, on s'entend que peut-être dans 35 ans, on va commencer à s'entretuer pour avoir du gaz naturel, parce qu'il n'y en aura plus, et le prix va continuer d'augmenter. Et de dire qu'on en importe d'Algérie ou Norvège, ces prix-là vont fluctuer en fonction de la demande aux États-Unis. C'est pas la demande au Québec qui va changer, c'est la demande aux États-Unis. Donc, ça ne changera absolument rien en termes de demande et de prix du gaz naturel, ce qui veut dire qu'il est voué à augmenter toujours le prix du gaz naturel. Et c'est quoi l'idée de s'en aller là-dedans? Quand justement 700 millions, on pourrait le mettre dans des énergies alternatives, et on parle de géothermie, on parle d'éolien, on parle de solaire, on parle d'économie d'énergie, il y en a plein, tandis que là, on est en train de prendre un virage et on se demande où est la main des politiciens dans la poche de Gaz Métropolitain.
Non, c'est la main invisible du marché.
C'est celle-là dont il fallait parler.
Mais peut-être qu'on pourrait donner une main d'applaudissement au gouvernement Charest, tout le monde ensemble maintenant.
Pourquoi?
Ben, c'est super beau comme projet, bravo!
Quelle cohérence gouvernementale, bravo!
Ben,
bravo.
En fait, également peut-être au PQ, le PQ qui n'a rien dit par rapport à ça, sinon qu'il était... il ne pouvait pas mettre de moratoire sur ça pour une raison économique. Bernard Landry, vous connaissez le grand financier Bernard Landry, toujours l'aspect argent à court terme. Merci, bravo pour la vision d'avenir pour notre société.
Alors bravo, M. Landry, bravo!
De retour à Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement, imaginez-vous donc. On était dans la revue de l'actualité, revue de presse pour cette semaine. Si vous voulez, on s'y plonge cette fois-ci après l'éditorial de Patrick Bonin, en fait, qui n'était pas qu'un éditorial. Il y avait un reportage, des données factuelles là-dedans. C'était passionnant. Merci beaucoup, Patrick Bonin, vraiment, d'avoir suivi tout ça pour nous.
Il est allé
en personne. Non, mais on sait que tu vas être là pour veiller au grain. On est rassurés. Donc, l'environnement, je disais, Delirium Environnemental, c'est aussi un site Internet et une cyberlettre. Vous pouvez trouver les articles desquels on vous parle au www.radiodelirium.net. Vous pouvez également, à gauche de l'écran, quand vous êtes sur le site, vous inscrire à la lettre d'envoi, à la cyberlettre, pour rester informé de ces enjeux environnementaux qui sont en fait
essentiels.
L'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, c'est tout l'environnement. Vous ne pouvez pas vous tromper. L'environnement aussi, c'est la santé. Beaucoup de problèmes de santé sont liés de plus en plus à l'environnement. C'est de plus en plus clair. On commence, vous savez, vous en avez peut-être entendu parler de la révolution génétique. On ne vous parlera pas de révolution génétique. On va vous parler de problèmes de mutation génétique chez les bébés. Patrick Bonin, c'est chez les bébés humains?
Chez les bébés humains, enfin, avant même qu'ils naissent, ces bébés qui sont portés par des femmes.
J'imagine.
Et oui, ça existe encore. Attendez, ça risque de changer. Il y a une étude qui est apparue aux États-Unis, qui a également apparu dans la revue Cancer Epidemiology, Biomarker and Prevention. Donc, c'est quelque chose de sérieux, encore une fois. L'étude a commencé en 1998 et je ris, mais c'est très sérieux, comme je vous dis. Ce serait que, en fait, la pollution de l'air aurait une atteinte, justement, au fœtus dans le ventre des mamans et aurait des mutations génétiques au niveau des fœtus, ce qui accroîtrait le risque de cancer. Donc, mutation, tout simplement due à l'air. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des tests, ou plutôt des petites machines pour calculer justement les composants dans l'air, dans les sacs à dos pour les femmes qui vivent dans le Bronx, ainsi que dans Harlem. On s'est rendu compte que les femmes qui étaient le plus exposées à des contaminants atmosphériques, principalement en provenance des véhicules automobiles, eh bien, il y avait des mutations génétiques qui se produisaient chez les bébés.
Quel genre de mutation génétique?
Ça
va dans le front, toujours?
Non, c'est quand même, on s'entend qu'il y a plusieurs gènes, donc il y a des mutations génétiques qui seraient reliées potentiellement à des risques de cancer. Et là, je pourrais pas te dire exactement lequel des gènes, parce qu'il y en a beaucoup.
On se souvient qu'en Europe, c'est un de vous deux qui nous avait parlé de ça, soit Patrick Bonin, soit Nicolas Mainville, il y avait une augmentation de 30% du taux de cancer chez les enfants. Y aurait-il un lien?
Oui, c'est chez les jeunes, pas chez les enfants.
Donc in vitro, l'étude
ça, c'est
de laquelle...
Avant même
donc avant même d'être jeune, ils sont même pas encore nés.
Donc on savait évidemment qu'il y avait justement des problèmes de croissance fœtale reliés aux polluants atmosphériques. Et bien là, on s'est rendu compte qu'il y a des mutations génétiques. Et l'étude va être à suivre, parce que je vous ai dit que c'est une étude quand même depuis 1998, donc on regarde plusieurs choses, entre autres la fumée des tabacs. Toutes les mères étaient des non-fumeuses. Et là, ce qu'on va vérifier, c'est justement avec ces études-là que c'était sur 60 personnes, 60 mères et 60 fœtus. Donc, on a vraiment des preuves qui disent, oh, il y a quelque chose là. Donc, ils vont approfondir cette étude-là pour vérifier. Mais écoutez, c'est pas la première fois qu'on sait que les polluants atmosphériques causent des problèmes.
Et c'est pas la première fois. Puis, on accumule de plus en plus ces liens-là entre la santé et l'environnement. Puis, je pense que les inquiétudes sont lancées de plus en plus sur la scène publique. Vous savez que c'était avant un petit peu cloisonné dans le monde scientifique. Mais là, ça fait des percées sur la scène publique parce que de plus en plus, on se sent interpellé. On voit les épisodes de smog qui augmentent les fréquences, voyons comment on dit ça, les gens qui vont à l'hôpital,
hospitalisation,
merci, excusez-moi. Ben, vous voyez, je vais juste faire un petit pont avec ma nouvelle sur les Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies, à chaque année, font un espèce de topo de la situation environnementale mondiale. Ils appellent ça le Geo Yearbook. Et puis, le Geo Yearbook est sorti cette année. Ils font justement une analyse profonde du lien entre la santé et l'environnement et l'apparition de maladies infectieuses dues aux changements environnementaux, aux perturbations environnementales, que ce soit la déforestation, l'avancement de la désertification, l'accroissement de l'urbanisme, la construction des routes, l'expansion de l'agriculture, tout ça. Ils ont fait des analyses profondes en voyant c'est quoi le lien entre les perturbations environnementales et la santé. Puis on découvre des faits assez inquiétants et on accumule des statistiques par rapport à ça. D'ailleurs, je vous conseille tout de suite, avant de parler de ce rapport-là, d'aller consulter sur leur site du Programme des Nations Unies pour l'environnement, donc le PNUE, qui fait vraiment toujours une bonne récapitulation de tout ça.
Puis il y a les dossiers en PDF qui sont disponibles, entre autres le résumé est disponible.
Exactement. Puis là, on nous donne des exemples. Vous savez, on parle souvent du cas classique de la malaria avec l'augmentation des températures. Les maringouins auraient tendance à migrer un petit peu plus vers le nord de plus en plus. Donc, on exposerait une plus grande quantité de personnes à ces maladies transmises par les maringouins, dont la fièvre de dengue, dont la malaria. Et puis, on nous explique différents exemples comme ça dans le rapport. Et on parle aussi du fait que les perturbations climatiques qui s'en viennent vont provoquer de plus en plus de réfugiés environnementaux ou des réfugiés climatiques, ce qui provoquerait une tendance plus élevée à mettre les gens en contact et se retrouver avec de répandre ces maladies-là de façon plus facile.
En termes de réfugiés, justement, je pense que c'est le PNUE qui parlait d'entre quoi 150 à 350 millions de réfugiés environnementaux qui devraient s'en venir sous peu. Et c'est une réalité là, entre autres, l'accès à l'eau et l'augmentation du niveau de la mer qui cause des déplacements massifs et les sécheresses.
Donc, une problématique qu'on va devoir prendre en compte dans les années à venir. Peut-être juste, on l'a sûrement dit, mais je l'aurais dit quand même, le PNUE, c'est le Programme des Nations Unies pour l'environnement.
Exactement. Allez voir ça sur leur site Internet. On va mettre le lien sur notre site au www.radiodelirium.net.
Bien, merci beaucoup, Nicolas Mainville. Nouvelle. En fait, tout le rapport est assez inquiétant. Il y a aussi le rapport de l'état de la planète qui vient d'être traduit en français. Et puis, c'est pour une nouvelle vision de la sécurité. Mm-hmm. On sait que le mot sécurité est un buzzword. Eh bien, justement, les gens de l'État de la planète du World Watch Institute ont jugé approprié d'intituler leur revue de l'année 2005 une nouvelle vision de la sécurité, justement pour faire comprendre aux gens, écoutez, peu importe ce qu'on fait entre nous humains, si on détruit notre milieu de vie, il n'y a plus rien à faire, tout simplement. Question santé et environnement, on parle de paix, de sécurité. Le plomb rend agressif.
Tout à fait.
Est-ce que la corrélation est droite comme ça?
Bien, on savait déjà que le plomb affecte le système nerveux. Vous savez que c'est un perturbateur du système nerveux central et va provoquer, entre autres, des effets sur le développement du cerveau des enfants. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps et c'est même la raison principale pourquoi on a banni le plomb de l'essence. Vous savez qu'en Amérique du Nord, il n'y a plus de plomb dans l'essence depuis près de 30 ans.
Encore présent en Afrique, par contre.
Encore présent en Amérique du Sud, en Afrique. Donc, c'est une problématique qui est tout à fait actuelle. Mais c'est aussi que le plomb est présent dans d'autres choses, notamment dans l'eau, dans les peintures, dans les sols. Il y a beaucoup d'émanations de plomb provenant de l'industrie aussi. Donc, on se retrouve quand même exposé à une certaine quantité de plomb. Et puis, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, dans la région de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui nous dit, écoute, on a fait une corrélation entre les niveaux de plomb chez les jeunes délinquants et leur acte de délinquance. Donc, on dirait que entre 18 et 38% des crimes faits par les délinquants étaient directement causés par les hauts niveaux de plomb dans leur sang. Et donc, on a accumulé différentes statistiques par rapport à ça. On a fait une analyse et on y va avec la conclusion que le plomb serait un des agents principaux provoquant ces actes de violence dans la société américaine, états-unienne, pardon. Donc, évidemment, des conclusions comme ça, ça nous saute à la face.
C'est assez intéressant de voir, je trouve, dans cette étude-là, justement, que des contaminants environnementaux peuvent avoir des effets, pas simplement. Là, on parle de santé, là, mais on parle d'un comportement qui est affecté.
Exactement.
c'est quand même assez impressionnant. Puis il y a plusieurs autres troubles de comportement qui sont associés à ça, à des problèmes environnementaux, entre autres l'anxiété, pas parce qu'on sent bien que tout le monde, la planète va sauter, mais parce que justement, ça altère vraiment le système nerveux central. Environnement et santé, vraiment des questions essentielles. Pollen, smog, égal.
Et allergie. Exactement, bravo. Et encore une fois, une autre étude, et cette fois, c'est l'Université de Munich en Allemagne qui a sorti un lien entre le smog, les allergies et le pollen. Paraît-il que le smog, qui serait entre autres causé, on s'en souvient, par le dioxyde d'azote qui provient de la combustion de l'essence des automobiles, eh bien, ce dioxyde d'azote provoquerait des réactions avec les différentes molécules allergènes et déclencherait des allergies qui n'existeraient pas sinon. Donc, le mécanisme des allergies n'est pas encore compris exactement, mais ce qu'ils se sont rendus compte, eux, c'est qu'il y a vraiment un lien entre smog urbain, on s'en souvient, à Montréal, on avait du smog il n'y a pas longtemps, on en a souvent l'été à Montréal, un lien direct entre pollen, allergie et smog. Donc, plus il y a du smog, avec le pollen, ça réagit ensemble et les gens deviendront encore plus allergiques. Donc, si on fait encore une fois la récapitulation, le transport, la pollution cause des problèmes de santé. Le gouvernement Charest est là pour la santé, mais que faites-vous avec les transports?
Donc, c'est clair que Claritin a des parts dans les Hummers pour avoir plus de smog, pour que les gens achètent plus de Claritin, pour qu'il y ait plus d'allergies, pour que vous compreniez.
Wow! Quelle logique!
C'est clair, je veux dire.
Terminant peut-être ce petit bloc santé et environnement, on aurait pu en parler encore des heures. Merci beaucoup, Nicolas Mainville et Patrick Bonin. Peut-être simplement inviter. Je vous invite tout le monde à aller voir le site de Body Burden. Ils font des études santé environnementale absolument intéressantes et surtout, ils ont ce talent de communiquer leurs résultats. On se souvient qu'il y a une étude qui a été faite autour des années 2000 qui montre chez des gens de diverses origines, de diverses provenances, de différents âges, etc., autant des hommes que des femmes, le nombre de contaminants qui ont été capables de répertorier. On parle du plomb, on parle du cadmium, on parle de presque tout l'arsenic, les BPC, etc. Donc, Body Burden, ce sera sur notre site internet au www.radio.net.